Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc là, la réflexion, les quelques minutes que nous voulons prendre ensemble, je voudrais qu'on se pose la question par rapport à nous-mêmes, chacun individuellement, par rapport à l'église locale que nous sommes, mais aussi par rapport à la réponse que nous pouvons donner au monde qui nous entoure. Quelle église voulons-nous pour le 21e siècle? Je crois que c'est vraiment très important. Nous venons d'entendre le témoignage de Nathanaël et Mylène au niveau de la communication, de l'informatique. On avait l'impression d'être dans un film de science-fiction il y a encore un instant. Mais la science-fiction, c'est rien d'autre que des gens qui ont imaginé des choses pour le futur. Et des fois, la réalité rattrape ce qui est en train d'être fait. Donc, pour nous, c'est important aussi de savoir que le monde avance, le monde bouge, hein. Et je venais de lire cet après-midi, justement, dans ce livre, le monde bouge vite. Et là, il écrivait « Aujourd'hui, la connaissance double tous les 7 ans environ. » Tous les 7 ans, la connaissance, c'est-à-dire l'ensemble des choses que l'être humain a accumulées comme connaissance, a doublé. Donc, il dit, ça veut dire que si vous n'êtes plus à l'école depuis 8 ans, il y a plus de connaissances disponibles aujourd'hui que depuis que vous aviez quitté l'école et pendant les 5000 ans qui ont précédé. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui nous semblent inimaginables. Donc, on a la possibilité en tant que chrétien, en tant qu'église, de faire... Il y a deux possibilités d'abord. Soit d'essayer de suivre le rythme du monde, mais on ne veut pas le suivre dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas vrai? Ou alors, on fonde une communauté Amish. Je n'ai rien contre eux, je les trouve très sympathiques. Et on vit comme les gens vivaient au 19e siècle. Avec la terre, les chevaux, et les granges, les fermes. Et finalement, on va peut-être vivre heureux, si on trouve un coin de terre où on peut encore vivre comme ça. Mais pendant ce temps, le monde entier, il va aller très très vite dans une direction où nous n'aurons pas d'influence, nous n'aurons pas de présence. Donc notre question... C'est qu'est-ce que le Seigneur Jésus voudrait pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'individus et en tant qu'église. Et là où j'en viens justement là où je voulais encore une fois les faire participer par rapport à ce qu'ils ont partagé, c'est si on prend maintenant les individus que nous sommes. Je voudrais que chacun, vraiment, vous soyez courageux maintenant et chacun réponde à tour de rôle à cette question difficile. Qu'est-ce que vous aimeriez manger ce soir? Alors, si, admettons, nous avons une tradition familiale, quand c'est ton anniversaire, tu as le droit de choisir ton repas. Imagine, ce soir, c'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu choisirais? Je vous donne pas 1 minute ou 10 minutes pour réfléchir, parce que c'est quelque chose qui est en vous. Vous vous dites, c'est ça que j'aime. Alors, on commence ici.
Des bouchées
là, en fait. Une salade d'endives.
Spaghetti bolognese.
Ou le frit.
Attends, j'écoute tout.
Pizza.
J'écoute d'agneau.
Comment?
Fromage.
Fromage, chocolat.
Et des bouchées à la reine.
Une tourte.
Du mois de Saint-Jacques que j'imagine.
Une salade.
Voilà. Donc, on a quand même quelques-uns ont la même idée de menu. Vous vous rendez compte? On n'est pas des milliers là. On est juste quelques-uns et on a déjà une telle diversité. Ça vous parle ça? Je parle, là on est dans le concret. C'est la réalité du corps de Christ. On est tous différents. Et maintenant, ils nous ont raconté comment ça se passe au restaurant universitaire. Donc, si j'ai bien compris, vous me corrigez, hein. Il y a deux files. Il y a d'un côté, vous avez des possibilités avec des plats variés, toutes sortes de légumes, toutes sortes d'accompagnements. Et de l'autre côté, vous avez une file avec que des frites et snacks, voilà, frites, hamburgers, saucisses et éventuellement pizza. Et ils ont observé qu'il y a des gens qui prennent cette file tous les jours. Ça veut dire que leur alimentation, tous les jours, ils sont dans cette même file avec les frites, les trucs, etc. Que je n'ai absolument rien contre, je ne vais pas prêcher contre les frites parce que c'est très bon. Mais il est évident que quand on a un peu de bon sens, et on s'attendrait à ce que des étudiants en aient, il est évident qu'on ne peut pas avoir une alimentation de ce type tous les jours, tous les jours. D'accord? Et donc, on est vraiment interloqué. On dit, c'est pas vrai, ils font ça. Donc, ce que je voulais souligner maintenant comme point, c'est que nous sommes très différents. Et dans notre désir, par exemple, de vie chrétienne, on est très différents aussi. Si maintenant je fais les mêmes tests pour d'autres choses, je pourrais dire, comment tu vois l'Église? On refait le test. Alors, vous savez, je me rappelle, il y a 20 ans en arrière, ou plus, à un moment, il y avait un débat dans les églises. Dans les églises évangéliques avait commencé d'apparaître ce petit carnet qui s'appelait « J'aime l'Éternel ». D'accord? Et c'était issu de Jeunesse en Mission, des camps de jeunes, des nouveaux petits cœurs, dont certains nous chantons encore maintenant. Et nous avions aussi, dans certaines églises, il y avait un carnet de chants traditionnel qui s'appelait « Les ailes de la foi ». Et alors, vous aviez deux générations, la nouvelle génération qui poussait pour qu'on chante dans les « J'aime l'Éternel » et l'autre génération qui voulait conserver les ailes de la foi. Et ça, c'est le genre de choses qui me parle parce qu'on dit « Attends, on est en train de se tromper de débat. L'Église ne va pas se porter mieux parce qu'on chante dans un carnet ou dans un autre. » C'est pas là qu'est la réalité de l'Église. Vous comprenez ça? Et je dis, par rapport au style d'Église, là j'ai aussi pris une petite illustration. Là, c'est Philippe Jauret qui écrit dans son livre « Do you speak Église ?» Et donc, il dit, à un moment donné, on parlait du prophétisme bizarre ou un retour à l'essentiel. Et donc, à un moment, il y a eu ce qu'on appelait la louange prophétique. Alors, je dis tout de suite, nous sommes pour la louange, 100% pour la louange. Et nous sommes pour le prophétique, 100% pour le prophétique. Parce que prophétique, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et on a toujours besoin d'entendre des nouvelles choses. Mais qu'est-ce qu'on a entendu à un moment? Que louange prophétique, et ça, j'y suis très sensible parce que j'aime beaucoup ça. Ça fait référence à un moment donné, quand le prophète Élisée, il était un peu en panne, si vous me permettez. Le roi attendait quelque chose de lui. Il voulait entendre des paroles, il n'en avait pas. Ça arrive, même à des prophètes. Parce que les prophètes, ce n'est pas des machines à prophétie. Qu'est-ce que tu as à me dire? Des fois, je reçois des mails de voyantes. Je dis, c'est évident que cette personne n'est pas une voyante. Sinon, elle saurait que ça ne m'intéresse pas et me l'enverrait pas. Parce que si elle pouvait voir la réalité, elle me l'enverrait pas. Donc, mais les prophètes ne sont pas des machines à prophétiser non plus. Par contre, ce qu'il avait, il avait dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et il nous a dit qu'au moment où il y a la musique, elle fait quelque chose en nous, hein. La musique lui a communiqué quelque chose qui a fait que l'onction est venue sur lui et il a commencé à parler de la part de Dieu. Donc, à cause de cette réalité, ça existe, la louange prophétique. Mais maintenant, quand on me dit, comme là, il dit, la louange prophétique a commencé à retentir de plus en plus sous une forme instrumentale. Les instruments prophétisent, dit-on. Mais Paul dit, 1 Corinthiens 14, que s'ils rendent des sons incompris, personne ne se prépare et personne n'est édifié. C'est ainsi que si vous sonnez d'une trompette ou quoi, ça veut dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. À un moment donné, le support que nous avons, quel qu'il soit, doit être mis de côté pour laisser la part à Dieu, qu'il puisse parler lui. Vous comprenez la différence? C'est ainsi que dans une église, il y a quelques années, on était à Strasbourg. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui se lève, un cérémonial très religieux, et il a poussé un son dans un chauffard. J'aime bien le son du chauffard, mais
ça parle pas.
Mais le chauffard ne me dit rien. J'entends juste le son. Comprenez? Vous savez le traduire, vous, le chauffard? On peut traduire plusieurs langues, mais le chauffard, on ne sait pas ce qu'il dit. Donc, chauffard, c'est pas celui qui roule mal en voiture, hein. Je précise, parce que comme on ne sait pas comment c'est écrit à l'audio, chauffard, c'est cette corne de bélier ou de je ne sais quoi en Israël qui était utilisée pour donner certains signaux. Quand nous, on lit dans notre Bible trompette, c'est pas toujours trompette. Ils avaient quelques trompettes. Et là, c'est précisé que c'était en métal et que c'était pour annoncer un certain nombre de choses. Mais dans la plupart des autres cas, quand on entend qu'il y a le son de la trompette, en réalité, c'est le son, on dirait avec un vieux terme, de la corne. C'est ce qui est soufflé dans la corne d'animal. Donc, moi je dis que les gestes, les instruments, tout ce qu'on veut, les bannières, les drapeaux, tout ça ne prophétise pas. Ils ne font que extérioriser ou annoncer quelque chose qui sera de l'ordre de la parole de Dieu. Mais quel signe est donné à une personne du 21e siècle s'il vient dans une assemblée et on entend là le bruit des béliers, il trouve que c'est un peu rustique. C'est un peu pittoresque, mais ce n'est pas le langage. Vous voyez le décalage entre la technologie du 21e siècle et nos retours en arrière qui sont un petit peu pittoresques. Alors, il disait, par exemple ici, il dit « Des danses ont commencé à prendre des allures de danse tribale, soutenues par des percussions qui font penser au rythme du vaudou ou des Indiens. » Alors, il ne s'agit pas de dire chaque fois que c'est une danse, c'est mauvais. Il ne s'agit pas de dire chaque fois qu'il y a du rythme, ça vient du diable. Mais il dit ici, je peux comprendre que le Saint-Esprit puisse utiliser ces rythmes ou ces mélodies dans les peuples ayant ces références culturelles. Mais pour l'occidental moyen, nous avons ici un djembé qui est utilisé. Il nous donne un peu de rythme. Peut-être si on avait un batteur et une batterie complète, on n'utiliserait peut-être pas le djembé ou on l'utiliserait en plus. Mais pour nous, c'est pas parce qu'on veut faire une louange à l'africaine. C'est simplement parce que c'est un instrument qui nous permet d'accompagner le rythme, vous voyez? Mais si maintenant on transformait complètement l'église en disant c'est une église où on a des chants et des danses africaines et on a du tambour tout le temps, quelle population pourrions-nous toucher? Ben, les Africains qui habitent en Europe et quelques personnes qui ont cette sensibilité. Comprenez? Certains qui diraient « Oh, ça me plaît ça !» Alors, les uns aimeraient ceci, les autres... Mais ce que je veux dire, c'est que, comme on a vu la diversité au niveau des repas, on ne peut pas se spécialiser en disant « La musique spirituelle, c'est l'orgue, comme on avait dans les grandes églises classiques. » Ou « La musique spirituelle, c'est uniquement quand il y a du rock. » Et pour d'autres, ça sera du jazz. Et pour d'autres, ça sera des percussions africaines. Et pour d'autres, ça sera encore autre chose. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire à ce sujet? Nous pouvons faire ce que nous faisons dans toute famille. C'est-à-dire, on fait des compromis. Vous ne faites pas ça dans votre famille? Vous ne faites pas des compromis? Ou alors, bon, il y en a un, le plus fort, j'espère que c'est le chef de famille, tape sur la table, dit, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans les églises aussi, des fois, vous avez des pasteurs qui disent, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il impose son truc, bah, finalement, quand tout le monde sera parti, il sera en accord avec lui-même. Mais il sera tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des compromis. Chacun essaye. Une fois, si c'est un peu plus lent, on dit pas, oh non, moi j'aime les chants rythmés. Et les chants lents ont leur signification. Et une fois que c'est trop vite, quelqu'un va pas dire, oh ça c'est trop vite, ça fait trop de bruit. Donc, ce que je veux dire, c'est que si nous voulons construire l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons la comprendre dans sa diversité et il faut qu'elle parle aussi à d'autres. Y compris à des gens qui peuvent être autour de nous. Et ça, c'est déjà pour annoncer la suite. C'est que l'Église a une vocation. C'est de parler à des gens qui ne connaissent rien de Dieu, qui sont de l'extérieur. Zacharie, j'aimerais que tu arrêtes maintenant de déranger. Merci. Ça s'est enregistré en plus. Ceux qui vont l'écouter l'entendront. Mais c'est pas grave. Alors, nous avons une mission à accomplir, et là j'ai vu un tableau très intéressant sur vous pouvez vous mesurer spirituellement où vous en êtes. Hein. Vous êtes intéressé de savoir où vous en êtes? Alors, la nouvelle naissance, c'est le point zéro. Alors, voilà, c'est la base. On ne peut pas dire un bébé, ben, le moment où il naît, c'est son jour zéro. C'est là que ça commence. Hein. On ne parle pas du temps dans le ventre de la maman. Ce n'est pas la question maintenant. Donc, la nouvelle naissance, c'est le moment zéro. Mais, on va commencer beaucoup plus bas que ça, juste que vous puissiez voir un peu quels sont les gens qui sont autour de vous. On parlait tout à l'heure des étudiants, dans quel état ils sont. Alors, quand ils ont une conscience fermée à toute notion de Dieu, ils sont à moins 8. Ouais, il fait un peu froid déjà à moins 8. Hein. Moins 8, conscience. Est-ce que les enfants, dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous dites quoi que ce soit. Conscience fermée à Dieu, ça veut dire tu essayes de parler à Dieu de quelqu'un. À quelqu'un. Voilà. Et il veut rien entendre. Pour lui, ça n'existe pas. Il peut même pas l'imaginer. Comme ce brave homme, ça me fait pitié, qui est apparu dans les dernières nouvelles d'Alsace il n'y a pas longtemps, et qui nous écrivait que surtout pas le créationnisme, mais le hasard a fait que tellement de choses merveilleuses sont venues toutes seules sur Terre et qu'avant il n'y avait rien. Voilà, ça c'est l'explication. Il faut être très intelligent pour arriver à cette conclusion. Donc, moins 8, conscience fermée à toute notion de Dieu. Et, donc là, il y a une catégorie spéciale encore pour eux, ils sont cyniques, on les appelle des cyniques. Ils sont hostiles, ça veut dire qu'il y a de l'agressivité. Ils ne sont pas intéressés et pas ouverts. Alors, la façon d'approcher ce genre de personnes, c'est d'abord, il nous faut découvrir d'où vient son hostilité. Des fois, les gens qui sont le plus opposés à Dieu, c'est que dans leur famille, il y avait quelqu'un qui les a harcelés avec Dieu pendant leur jeunesse. Mais ne vivant pas réellement l'évangile, mais étant juste religieux. Toujours il faut que, etc. Et présenter une mauvaise façon l'évangile. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Il a eu un lavage de cerveau quand il était petit. On pense à des temps du communisme, à l'Union soviétique, quand il traquait constamment les chrétiens et des choses comme ça. Donc la première chose à faire, c'est pas tout de suite lui dire « la Bible dit que », parce que pour lui, ça veut rien dire du tout, hein. Ça veut rien dire, elle n'a pas d'autorité. Donc, quand on grandit un petit peu plus dans l'échelle, le moi 7, c'est conscience de l'existence d'un être suprême. On pense qu'il peut y avoir quelqu'un quelque part. Vous voyez, ce n'est pas encore loin, on ne peut pas dire que ça y est, c'est gagné. Mais au moins, il se dit, il y a peut-être quelque chose. Mais vous savez, la plupart des gens... On passe tout de suite au moins 6, parce qu'on va ajouter le moins 6 et le moins 7. Une connaissance vague du christianisme. On sait vaguement quelque chose du christianisme. Donc le moins 6 et le moins 7, dites-moi, la plupart des gens autour de nous sont entre le moins 6 et le moins 7. Moi, je ne connais pas tellement de gens qui sont radicalement opposés, qui veulent absolument rien savoir de Dieu. Je ne connais pas trop. Je connais l'une ou l'autre personne qui manifeste de l'hostilité. Mais en général, c'est, il y a peut-être quelque chose quelque part. Ça, ils acceptent. Ou, on connaît peut-être quelque chose du christianisme. Mais à moins 8, moins 7, moins 6, on est encore loin de l'objectif qu'on veut atteindre. Ensuite, on arrive à moins 5, la connaissance du message du salut. C'est-à-dire, ces gens-là ont entendu d'une façon claire ce qu'il faut faire pour rencontrer Dieu, être réconcilié avec Dieu, et donc ils ont entendu clairement. D'accord ? Donc c'est pas encore la majorité, hein ? Moins 5. Ensuite, à moins 4, ils ont saisi les implications personnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maintenant vous avez entendu le message du salut, maintenant il faut prendre une décision. Mais on n'a pas encore pris la décision. Mais on se rend compte déjà que, mais si je m'engage avec Dieu, il y a certaines choses que je vais peut-être faire, d'autres que je pourrais plus faire. On voit déjà que ça nous mène quelque part. D'accord? Donc là, on passe de la catégorie cynique à la catégorie sceptique, un peu ouvert, mais on a encore des doutes. Il faut découvrir quelles sont ses questions, quelles sont ses objections. Qu'est-ce qui l'empêche de venir à Dieu? Parce qu'une fois que nous, on connaît le Seigneur Jésus, qu'on vit avec lui, qu'on voit sa bonté, tout ce qu'il fait pour nous, on se dit, mais comment c'est possible que les gens n'aient pas envie de le suivre? C'est un mystère pour nous. On se dit, c'est pas croyable. Et tout le monde devrait avoir envie de vivre avec Jésus tous les jours. Mais alors, il faut découvrir quelles sont ses questions, quelles sont ses objections. Peut-être, donc, ses implications, parce que il va peut-être croire que Dieu va lui demander des choses bizarres ou ça fait très peur aux gens des fois de dire suis-moi. Ils ont des exemples en tête, il fallait tout abandonner, etc. Ils comprennent pas qu'ils y gagnent plus qu'ils y perdent et que c'est rare que les gens doivent vendre tout ce que tu as et va à l'autre bout du monde et recommence une nouvelle vie. Donc, il y a des peurs. Et donc, on passe maintenant, bientôt dans la catégorie spectateur. Spectateur, c'est, on est présent, on écoute, on a un certain nombre de connaissances, on est souvent ouvert aux idées, mais on n'est pas motivé à se les appliquer. On n'est pas prêt à le faire. Et attention, parce que là, on est encore un peu dans les catégories négatives, hein. Mais après, on se rend compte que même né de nouveau, on peut aussi être dans la catégorie spectateur. On écoute des choses, on sait des choses, mais on ne les fait pas. Alors, le spectateur, il faut le faire penser à ses attentes dans la vie, sa raison d'être. Qu'est-ce que tu aimerais réellement? Et ensuite, on arrive à un point plus intéressant, pour nous du moins, c'est le moins 3. Et on reconnaît... Il reconnaît ce qui le tient éloigné de Dieu. Ce que je dis, je ne sais pas combien chacun d'entre vous peut entendre ou comprendre, mais c'est tellement important. Nous avons tous des gens que nous fréquentons autour de nous. Vous avez des personnes que moi je ne rencontre jamais. Et ces personnes ont besoin de Jésus. Et vous avez Jésus dans votre vie. Et c'est quelque chose qui n'est pas une petite chose. Soyez fiers de ce que vous avez, d'avoir la présence de Dieu en vous. Et donc, d'amener quelqu'un à reconnaître ce qui le tient éloigné de Dieu. Qu'est-ce qui nous tient éloigné de Dieu? De ne pas reconnaître Jésus. Donc, il faut déjà réaliser ça et envisager d'agir. Ça ne veut pas dire, tu dois faire ta décision aujourd'hui, tout de suite et maintenant, parce que tu ne sais pas si tu vas sortir, tu auras peut-être un accident, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Ce n'est pas la bonne méthode d'évangélisation, à mon avis, même si, dans certaines situations, ça peut être le cas, et on peut être employé par Dieu à être un prophète pour quelqu'un, de dire « c'est ta dernière chance ». En général, quand Dieu dit « c'est ta dernière chance », c'est qu'il y a eu beaucoup de chance avant. Vous êtes d'accord avec moi pour ce principe? Que la sentence, elle ne tombe pas tout de suite. Donc, on en est maintenant à ce point, il se reconnaît éloigné de Dieu, il veut faire quelque chose. Il pense, il faut que je prenne une décision pour Jésus. Donc, il est maintenant dans la catégorie 1, dans la meilleure position, encore parmi les négatifs, hein, mais bon, déjà mieux. Il est dans la, non, on était à 4, 3, 2, 1. Il est maintenant un chercheur. Il a un degré d'ouverture. Il veut connaître et suivre la vérité. Mais il ne l'a pas encore fait. Vous vous rappelez, à un moment, Jésus avait rencontré quelqu'un, il a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors, nous, on dit, oh, c'est bien ça, je ne suis pas loin. Oui, mais si tu n'es pas loin, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Hein? On peut dire, nous ne sommes pas loin de l'Allemagne. Mais on n'est pas en Allemagne. Il y en a qui sont, des fois. Mais pour ça, il faut traverser la frontière. Donc, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Quand tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ça veut dire que tu es en dehors. Donc, c'est pas de féliciter quelqu'un. Alors, vous imaginez le nombre de personnes. Ils croient vaguement en l'existence de l'être suprême. Ils croient vaguement au christianisme. Ils ont même entendu le message du salut. Ils savent que ça les engage à quelque chose, mais ils n'ont toujours rien fait. Donc là, quand on a des chercheurs, des gens qui maintenant veulent connaître et suivre la vérité, là, on est déjà dans une bonne démarche. Alors l'approche, ce que nous pouvons faire, c'est demander, qu'est-ce qui te fait hésiter? Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Alors, si on trouve la solution, tant mieux. Alors, on se trouve dans le moins deux. Se décider pour Jésus. Alors, vous voyez, se décider pour Jésus, il est encore en moins deux. C'est étonnant, n'est-ce pas? Oui, parce que le fait de prendre une décision n'accomplit pas tout de suite la nouvelle naissance. C'est simplement, maintenant, c'est la part de l'homme. L'homme désire maintenant le salut. C'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui lui manque encore pour se décider pour Jésus? C'est un acte de conversion. Conversion, ça veut dire faire demi-tour. 180 degrés. Je vais dans cette direction. Si je me convertis, je vais dans l'autre direction. Nous, on va tous, par nature, on va dans la mauvaise direction. Tous. À un moment donné, il faut choisir de la conversion. On va dans l'autre sens. On va maintenant vers Dieu au lieu de fuir loin de lui. C'est pour ça que certains disent qu'il faut se convertir tous les jours. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Alors, j'avance dans cette direction, je me convertis. Maintenant, je suis dans cette direction, je vais me convertir tous les jours, je vais de nouveau dans l'autre direction. Alors, ça, pour moi, c'est quelque chose qui tourne en rond. Non, mais il y a un moment où je décide, je me tourne vers Dieu. Maintenant, je suis à moins deux, parce qu'il me manque quelque chose. Dieu ne peut pas agir en moi simplement par ma volonté. Sinon, je pourrais me sauver moi-même, en fait. Certains ont critiqué ça en disant « mais c'est le décisionnisme », ils lui ont même donné un nom. Mais par exemple, Billy Graham, Dieu l'a oint spécialement pour ça. Il avait une capacité reçue de Dieu pour pousser les gens à prendre une décision. Son émission s'appelait « L'heure de la décision ». Il a beaucoup appelé les gens à la décision. Mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas créer la nouvelle naissance dans les gens. Mais lui, il avait une capacité pour attirer les gens à Dieu et de prendre cette décision. Et maintenant, la personne elle-même devait faire quelque chose. Ça, c'est moins un, et devait confesser son état de pécheur. Là, à un moment donné, il faut dire « sans Dieu, je ne peux pas vivre, j'ai besoin de toi, je suis perdu ». On le dit avec tous les mots qu'on peut avoir personnellement, et mettre sa foi en Christ, croire comme le brigand sur la croix. Et souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Moi, j'ai mérité ce que je suis en train de subir. Il se reconnaissait pécheur et il a mis sa foi en Christ. Souviens-toi de moi. Il croyait, imaginez ça, cloué sur la croix, sur le point de mourir. Il croyait que pour lui, brigand, qu'il avait mérité ce qu'il a fait, il y aurait un après la mort au paradis. C'est quand même révolutionnaire de réaliser ça. À ce moment-là, il dit, souviens-toi de moi. Et de se dire, même quand Jésus sera au paradis, il peut encore faire quelque chose pour lui. C'est fantastique. Mettre sa foi en Christ, et voilà que se produit le miracle de la nouvelle naissance. Ça y est, on est au point zéro. On est au point, nous, quand on dit on est au point zéro, on a l'impression que zéro, c'est pas grand chose, hein, c'est rien du tout. On est juste au départ. Mais c'est pas mépriser un bébé, de lui dire, écoute, regarde où t'en es, t'es au point zéro de ta vie. Ça serait ridicule, ouais. Mais oui, mais des fois, on se rend même pas compte de ce qu'on dit. Alors, on dit des choses comme ça spirituellement, on ne va pas mépriser quelqu'un parce qu'il est au point zéro. Ça veut dire que non, il a toute sa vie devant lui et il peut grandir. Alors, on arrive au plus un. Maintenant que tu es né de nouveau, tu vas évaluer ta décision. Après la décision, maintenant on va voir, est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a compris les engagements que ça allait demander? Le plus deux, c'est la participation à la vie d'église. Et là, on se rend compte encore que beaucoup restent au point zéro. Si on est nouveau, c'est bien. Ça me fait penser à l'histoire de un homme qui avait entendu parler de réunions où il y avait des guérisons. Il est venu. On a prié pour lui, il a été guéri. Un miracle. Après, on ne l'a plus vu à l'église. Un jour, le pasteur le rencontre, il dit, mais vous n'aviez pas été guéri à la réunion? Il dit, oui, j'ai été guéri. C'est ce que je voulais. Je suis venu pour être guéri. J'ai obtenu ma guérison. Et puis, il est retourné à la vie qu'il avait avant. Et donc, il y a un moment où on doit comprendre que la nouvelle naissance, naître dans la famille de Dieu, ce n'est pas pour être après je ne sais où. Donc, l'enfant aussi. Il n'est pas juste né. C'est dramatique quand on entend des gens qui dernièrement encore, en France, au XXIe siècle, une maman qui dépose un enfant dans une cathédrale. C'est arrivé il y a quelques jours. Et elle dépose l'enfant. Mais l'enfant, quand il naît, Il est né pour être dans une famille, pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'il puisse grandir. C'est ça qui est prévu. Donc, il participe à la vie de l'Église. On peut dire qu'il participe à la vie de famille. On est au plus deux. Et au plus trois, il pratique des œuvres dignes de la repentance. Maintenant qu'il y a un changement dans ta vie, maintenant il y a des œuvres qui sont dignes de la repentance, c'est-à-dire en rapport avec la décision que tu as prise. Donc, tout cela, c'était simplement pour remettre un peu le cadre de l'impact que nous voulons avoir dépendra beaucoup de notre compréhension de où en sont les gens autour de nous. Comment on va les approcher? Et donc, quand on se pose la question, quelle Église voulons-nous? Bien sûr, nous pouvons avoir nos désirs. On peut avoir nos désirs, on peut les exprimer. On peut dire, voilà, on aimerait que ça se passe comme ci ou comme ça. On aimerait que certaines choses soient différentes dans le culte ou dans le programme ou dans le mois ou de la façon dont on le vit. Mais une question qu'il faut nous poser aussi, c'est le Seigneur Jésus qui est le chef de l'Église. Il est la tête. Donc quand nous disons quelle Église voulons-nous, et qu'on chante comme tout à l'heure, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est aussi de chercher quelle Église veux-tu. Et moi je crois justement, il n'en veut pas une à mon idée, ou à ton idée, ou à ton idée. Il en veut une à son idée qui tiendra compte de la famille. Comme ce que j'ai dit dans une vie de famille, entre guillemets, normale, si ça existe. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que chacun soit heureux, chacun soit épanoui, chacun trouve sa place. Que ce ne soit pas que des activités pour des grands, ou que pour des petits, ou que pour des... Et nous le savons, ayant une grande famille, donc on avait vu aussi un éventail, où quand un bout d'un moment, les grands ont le droit de rester un peu plus longtemps debout, et les petits doivent se coucher plus tôt. Et ça, c'est des exemples des choses toutes simples, mais qui font que dans la vie de famille, ça se passe comme ça. Alors, quelle Église voulons-nous? C'est aussi... Quelle Église le Seigneur Jésus veut-il pour le 21e siècle? Et quand je dis ça, il en veut une qui soit capable non seulement de survivre dans le 21e siècle, de vivre dans l'abondance que Dieu donne, de la paix, de la joie par le Saint-Esprit, et qui soit capable de communiquer quelque chose aux autres sans être dans un décalage énorme de choses qui ne se font plus. Et je pose beaucoup de questions. Nous avons essayé d'apporter un peu de souplesse dans notre vie d'église en ayant, par exemple, un dimanche par mois libéré. Mais vous savez, les gens autour de nous, c'est pas un dimanche qu'ils veulent libérer. Ils veulent qu'il y en ait quatre qui soient libérés tous les mois. Mais si vous leur dites, vous préférez que ça soit le samedi soir, ben non, le samedi soir, c'est pour les sorties. Alors le dimanche matin, c'est pour dormir ou pour faire du vélo ou pour sortir le chien ou pour autre chose. Et le samedi soir, c'est peut-être pour sortir, pour aller au restaurant ou au spectacle. Et puis le lundi, ça sera ça et le mardi, ça sera... Finalement, vous ne trouverez jamais quelque chose qui convient à chacun ou à tout le monde ou même à la majorité. Alors, qu'est-ce qui nous reste à faire? Mince, on peut plier les bagages, dire l'Église n'a plus son rôle. Ou alors... L'Église doit constamment bouger, se transformer, être à l'écoute des gens. Comprenez ça? Je ne parle pas de structure ou de forme, je parle de notre capacité personnelle de vivre l'Église. L'Église n'est plus alors un bâtiment. Quand je dis quelle Église voulons-nous, ce n'est pas la structure, ce n'est pas le bâtiment. D'ailleurs, je ne vais pas beaucoup regarder dans la Bible, mais je vous cite simplement, à un moment, le Seigneur disait, « Quelle maison me bâtiriez-vous ? » Quelle maison ? Vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais vraiment donné d'ordre pour que la maison soit construite. C'était au départ une tente, un tabernacle, quelque chose qui devait bouger, quelque chose qui devait pouvoir suivre les directives. Ensuite, c'est un homme qui a eu cette idée. « Je veux te construire une maison. » C'était David, avec son cœur d'adorateur. « Je veux une maison pour toi, Seigneur. » Et il a dit, « Non, c'est pas toi, parce que tu as du sang sur les mains, tu as été un homme de guerre, tu vas pas le faire. C'est Salomon, ton fils, qui va le construire. » Salomon l'a construit, mais j'ai relu dans la Bible. Il n'a pas dit, « J'ai construit cette maison en ton nom. » Il a dit, j'ai construit cette maison à ton nom. Je l'ai construite pour toi. Je ne l'ai pas construite sur ton ordre. C'était un désir des hommes de vouloir glorifier Dieu à leur façon. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que nous avons. Mais maintenant, Dieu dit prophétiquement, il dit, quelle maison me bâtiriez-vous ? Vous n'êtes pas capable de bâtir une maison pour Dieu. Ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas ce qu'il désire. Il veut que chacun de nous, on soit réellement le temple, où il puisse se déplacer avec nous, là où on va, on puisse être à l'écoute. Tiens, il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Vous savez, ça peut être très simple. Je prends à témoin les plus petits. On entend aux informations des réalités, de choses qui se passent dans les cours d'école. On parlait du jeu du foulard à un moment, des choses comme ça. Des enfants qui s'amusent à s'étrangler et ensuite il y a des accidents. Et plus loin, alors ça se développe dans les collèges, dans les lycées. Il y a déjà des histoires de drogue et de choses qui se passent aux abords de ces établissements. Et c'est à vous, les enfants et les jeunes, d'être forts, d'avoir vraiment Jésus en vous pour déjà, pas seulement, nous n'en avons pas peur pour vous. Jésus a dit, je les garde mes brebis, je les tiens dans ma main. Mais vous pouvez déjà être des personnes qui prenaient position et disent non, pas de ça. Pas de ça pour mon petit copain, copine, etc. Vous pouvez même sauver quelqu'un. Je me rappelle un témoignage des hommes d'affaires du Pénévangile, il avait dit que sa jeune fille, sa fille, quand elle était jeune fille, quelqu'un est venu vers elle, a dit, je vais te lancer un sort. Elle a dit, eh bien, au nom de Jésus, tu ne pourras pas. Il faut savoir ouvrir sa bouche et dire ça. Et elle a dit, l'autre était tellement interloquée, elle est tombée par terre, en arrière. Ça l'a choquée et je crois que ce n'était pas seulement une surprise physique et naturelle. Il y avait quelque chose de plus, mais il faut savoir prendre position. Nous sommes une église du 21e siècle, nous avons des réponses, nous cherchons constamment encore, Seigneur, comment veux-tu que l'église soit ? Et il a dit, je bâtirai l'église. Un pasteur a une fois dit, heureusement que c'est Jésus qui a dit, je bâtirai l'église et que ce n'est pas nous. Et je ne sais pas ce qu'il voulait dire, maintenant je poserai peut-être la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Jésus a dit, je bâtirai l'église, mais c'est évident que nous y participons. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait pas écrit « Je construis comme un sage architecte ». Il n'aurait pas dit que nous sommes co-œuvriers avec Dieu. Il n'aurait pas dit tout le temps « édifier, 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 édifier ». Nous participons à la construction. Elle ressemblera à ce que nous en aurons fait. Maintenant, prenons juste encore une autre illustration. L'Église, c'est aussi des fois appelé l'épouse. D'accord ? Maintenant, prenez simplement cette illustration que l'Église, c'est aussi l'épouse. Si nous disons que c'est à nous de choisir comment sera l'Église et on ne cherche pas comment Jésus voudrait qu'elle soit, ça ressemble à quoi ? Je pourrais faire d'abord un sondage parmi les hommes ou jeunes gens pour dire comment tu vois la femme idéale ? Et qu'est-ce qu'on aurait ? Est-ce qu'on aurait chaque fois le même portrait ? Il faut qu'elle ait telle taille, telle couleur de cheveux, telle couleur des yeux, et ceci et cela. Et si on prenait l'inverse, on demande aux jeunes filles ou aux dames, on dirait, votre image, l'homme idéal, comment il serait? Mais on aurait encore une fois des portraits différents. Comprenez ça? Et là, nous sommes obligés de dire, ce n'est pas à nous de dire, Jésus, nous te présentons ton épouse, voilà comment elle est. Elle est comme je voulais qu'elle soit. Non, il faut qu'elle soit comme lui veut. Vous comprenez ? C'est son épouse. Il veut se marier avec elle. Il y a les noces de l'agneau pour l'éternité. Et après, ils seront ensemble, Jésus et l'épouse. Donc, il veut qu'elle soit comme lui veut. Pour qu'elle lui fasse plaisir, qu'elle lui soit agréable. Déjà, il l'aime. Mais pourtant, ce n'est pas parce qu'il l'aime qu'il n'y a pas des choses à faire. Vous ne pouvez pas dire que vous restez naturel. Hein? Si je reste naturel, au bout d'un moment, mes cheveux vont pousser. La barbe va pousser. Mes ongles vont pousser. Vous dites, mais c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais... Et puis, il y aura des odeurs naturelles aussi. Si je ne me lave pas, ça sera tout à fait naturel. Tout sera naturel. Et encore une fois, c'est absurde, c'est stupide. Donc, on ne peut pas dire, Jésus, voilà ton épouse. Regarde, tu dois l'aimer, c'est celle qui t'est destinée. Oui, mais elle n'est pas tout à fait comme j'aimerais. Ah non, non, mais il faut que tu la prennes comme elle est, c'est naturel. Donc, l'épouse que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ, elle est aimée de Dieu. Il la désire, il la veut. Jésus veut se marier avec elle pour les noces de l'agneau. Mais elle se prépare pour son époux. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il nous est dit, Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. » Et ce sera le mot de la fin. Vous êtes d'accord avec ça pour le mot de la fin ? Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous sommes saints, nous avons été mis à part pour Dieu, et pourtant, l'Église, c'est pas comme des fois on présente la mégère, vous savez, avec la robe de chambre, les bigoudis, le rouleau à pâtisserie, des trucs comme ça. Et on dirait, ça c'est pas la belle épouse qui fait plaisir à son époux. Et en l'occurrence, ben, Jésus aussi, il veut se marier avec son épouse. Mais son épouse s'est préparée. Donc nous aussi, on a encore quelques préparatifs à faire. Vous êtes d'accord? Vous trouvez que l'Église est parfaite? Sans tache ni ride, parfaite. Non, on a des choses à faire. Et il nous est dit, qu'est-ce que c'est? Comment on va être revêtu? Les œuvres justes. De faire ce qui est juste. La question, très simple, c'est quand on veut se poser la question, qu'est-ce qui fait plaisir à Jésus? Comment il veut bâtir son Église? Comment il veut que son épouse soit? C'est, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Dans certaines situations, c'est simplement ça. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? C'est ça les œuvres justes. Donc, que le Seigneur nous aide à construire son Église, que ce soit une Église pertinente, une Église qui a son mot à dire dans le 21e siècle, et que nous soyons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Alors, je vous encourage à vous lever et on va prier tous ensemble. Il y a des chants que nous n'avons pas pu interpréter ce soir, mais j'aimerais juste qu'on conclue sur celui-là, mais spontanément, sans l'afficher. C'est parce que c'est un chant qui est une prière, en fait. C'est « Ton amour me remplit ». Demandez à Jésus de vous remplir ce soir tout à nouveau. Dans les profondeurs de mon cœur, ta lumière m'éclaire, ton esprit me conduit dans le chemin. Merci, Joël.
Thank you. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.